Et nous avions parlé du pardon et j'aimerais aujourd'hui qu'on parle d'autre chose qui s'appelle l'offense, puisque avant un pardon, il faut être offensé. On va lire juste quelques petits textes à droite et à gauche. Et la première offense qu'il y a eu, c'est en Genèse chapitre 4, versets 1 à 10. Genèse chapitre 4, versets 1 à 10. Mais c'est tous l'histoire de Caïn et Abel. On va le relire et ça va nous donner un petit support pour parler un petit peu de ce qu'est l'offense. Donc Genèse chapitre 4, versets 1 à 10, et puis on va lire deux, trois passages après. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et lui dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alors, première offense, et elle finit très mal. On va lire d'autres petits passages dans Matthieu 6, verset 12. Matthieu chapitre 6, on les avait lus la semaine dernière, mais on va les relire. Matthieu chapitre 6, verset 12. C'est dans le fameux Notre Père, un petit passage, hein. Chapitre 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses. On aimerait bien s'arrêter là, hein. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Un peu plus loin dans Matthieu, chapitre 18, versets 23 à 27. Matthieu 18, versets 23 à 27. J'ai dû me tromper. Ah si. Donc 18-23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette lui soit acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître du serviteur le laissa aller. Et lui remit la dette. C'est ça qui m'intéresse, hein, c'est pas la parabole, mais lui remit la dette. Il y a un dernier passage dans Luc chapitre 11 au verset 4. Luc 11 verset 4. On reprend un peu le Notre Père. Pardonne-nous nos péchés. Là, il parle plus d'offense, il parle de péché. C'est encore le Notre Père, hein. Car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Donc la dernière fois, on a parlé du pardon et la difficulté d'accorder le pardon. Pas toujours simple, hein, il y a tout un processus, mais on ne va pas revenir là-dessus. Mais qui dit pardon dit certainement offense d'abord. Et l'offense, c'est quelque chose qui peut nous surprendre d'un seul coup. Hein. On ne se prépare pas à être offensé, ça nous arrive d'un seul coup comme ça. Et bien souvent, ça va nous infliger une blessure assez profonde et c'est pas toujours évident de s'en sortir une fois qu'on a été blessé. Et alors la blessure va nous déstabiliser et parfois on va même râler auprès de Dieu en disant mais pourquoi moi j'ai été blessé, hein? Pourquoi pas l'autre? Je préfère que ce soit les autres qui soient blessés souvent, hein? Mais pourquoi moi? Et on râle devant Dieu et on comprend pas et alors on s'isole peut-être, on devient amer et puis on se laisse aller. On avait vu la dernière fois qu'on peut même tomber dans la dépression. Et le diable est là, et lui, il va s'en mêler. Et s'il peut vous enfoncer encore plus loin, tant qu'il n'y a pas le pardon, eh bien, lui, il va vous enfoncer. C'est ça qui est terrible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est offensé? parce que l'offense est une chose, mais Dieu nous permet aussi de réagir face à l'offense. Avant de vouloir réagir, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'offense. Je ne peux pas réagir vis-à-vis de quelque chose que je ne comprends pas. Donc on va essayer un peu de voir ce que la Bible dit sur ce qu'est l'offense et apprendre à gérer justement l'offense avec le Seigneur. Et je dis bien avec le Seigneur, parce que c'est très difficile de le faire sans le Seigneur. On va voir trois choses, hein. Qui dit pardon dit offense. Puis une deuxième chose, ce qu'est l'offense, ce que l'offense peut produire en nous. Puis une troisième chose, bah comment réagir justement face à l'offense. Alors, qui dit pardon dit offense. J'imagine que vous êtes comme moi, vous avez été offensé un jour ou l'autre. Jamais. Bah, je vais commencer alors. Il faut bien qu'on commence une fois. On a tous été offensés. Alors, il y a des petites offenses, hein. Des petits bobos, bon, ça passe. Il y a des fois des choses terribles qui peuvent nous arriver dans notre vie et qui vont nous rester là dans le cerveau pendant bien longtemps. Et la Bible dit que l'offense est un péché. Vous avez vu le Notre Père, dans Matthieu il parle d'offense et dans le Notre Père, mais en Luc, il parle là de péché. À partir du moment que je parle d'offense, je parle aussi de péché. Je ne vais pas vous faire une grosse étude des mots qui sont dans l'hébreu ou dans le grec, mais le résumé, on pourrait dire, de cette recherche, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a un mot qui revient souvent qui est « chata », et appliqué à la révolte par exemple de l'échanson et du panetier du roi d'Égypte dans Genèse 40 verset 1, hein, on voit l'échanson et le panetier offensèrent leur seigneur, l'histoire de Joseph. On voit par exemple dans Samuel aussi que le mot est employé pour parler de péché, hein. Il dit que le roi ne pêche pas ou j'ai péché, en quoi ai-je péché, en fait on pourrait dire en quoi ai-je offensé Dieu. Et puis dans Proverbe 19, 11 il est dit l'homme sage est celui qui passe par-dessus une offense, c'est-à-dire qui supporte ou pardonne une insulte, qui passe par-dessus le péché. Dans le Nouveau Testament, le mot offense est souvent synonyme de péché dans le sens d'une dette envers Dieu d'abord, et puis évidemment envers celui à qui on a fait du mal. Ainsi, le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, peut être traduit plus littéralement, remets-nous notre dette. Vous l'avez vu la semaine dernière, à partir du moment qu'on parle de pardon, c'est parce qu'il y a une dette entre un offenseur et un offensé. Et ça va dans les deux sens. On va en revoir ça. Mais il y a une dette qui est contractée à partir du moment qu'on offense quelqu'un. Ou encore que le mot offense désigne aussi le péché d'Adam, par exemple, dans Romains, ou celui de tous les hommes. Quand j'offense quelqu'un, il faut que je comprenne que j'ai péché. Hein, souvent, c'est pas si grave, hein, de toute façon, il est trop susceptible, ou alors si et ça. J'ai péché, en fait. Nous dit la Bible. Et donc ces mots s'appliquent, enfin l'offense s'applique d'abord au péché lui-même, c'est-à-dire à la révolte qu'on peut avoir soit contre Dieu, soit contre l'homme. Hein, parce qu'offenser quelque part, c'est se révolter aussi. Et je peux autant offenser mon frère, ma sœur, ou n'importe qui, et autant offenser Dieu. Eh oui, on oublie ça. Donc l'offense touche le domaine du péché, qui touche autant mon prochain et qui touche autant Dieu. Je pêche contre Dieu, bien souvent. Et l'offense, donc, à partir du moment que j'ai offensé quelqu'un, je vais contracter une dette. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des dettes, ce n'est pas toujours drôle, il faut les rembourser. Ce n'est pas le même genre de dette, mais il y a une dette qui est contractée entre l'offensé et l'offenseur. Mais avant même de se poser la question par rapport à l'être humain, j'ai d'abord une dette vis-à-vis de Dieu. Si j'offense quelqu'un, ben j'ai une dette d'abord vis-à-vis de Dieu. Et quand on regarde un peu la notion de salut, il y a une notion qui s'appelle le rachat ou la rédemption. Et Dieu nous a rachetés par son Fils, c'est-à-dire que Jésus a payé la dette pour que nous puissions être sauvés. Il y avait une dette qui était contractée là, à cause de mon péché. Et c'est en acceptant Jésus que notre dette est effacée. C'est exactement la même chose quand je blesse mon prochain, une dette est contractée et va falloir la payer maintenant. Enfin, la régler en tout cas. Et c'est intéressant que Jésus met en relation autant les dettes à l'égard du Père que celles que les hommes ont entre eux. Je peux avoir une dette à l'égard de Dieu, je peux avoir une dette à l'égard de l'homme. J'ai offensé Dieu, j'ai offensé l'homme. Donc, quand j'offense quelqu'un, quelque part, c'est comme s'il y avait un papier qui dit « Maintenant, Emmanuel, tu as une dette vis-à-vis de François. » C'est pas vrai, mais bon. Je contracte une dette à l'égard de mon frère parce que je viens tout simplement de l'offenser. Et tant qu'il n'y aura pas de pardon, la dette existe. Vous avez compris ça? C'est ça qu'on oublie souvent. On dit on va essayer d'oublier dans notre tête, on va essayer de, hein, avec le temps les choses s'effacent. Non, la dette, elle est toujours là. Et tant que ça ne sera pas réglé, la dette est là. Et ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans. Les gens, au bout de 20 ans, qui vont aller voir leurs parents, peut-être, hein, comme on avait lu l'histoire la dernière fois, pour demander pardon. Parce que la dette est toujours là. Et donc, il faut la régler. Quand on réfléchit aussi à l'offense, c'est une atteinte en fait à la relation. D'abord, par exemple, la relation entre l'homme et Dieu. Hein, le premier péché dans le jardin d'Éden a détruit en fait la relation que Dieu avait avec l'homme. Qu'est-ce que ça devait être bien le jardin d'Éden, non? Vous n'y pensez pas de temps en temps. Pas de péché, les fruits par milliers, je sais pas, tout à disposition. Il fallait un peu travailler, hein, parce qu'on croit souvent qu'il ne fallait pas travailler. Il a quand même demandé de s'occuper de tout ça. Mais tranquille, quoi. Qu'est-ce que j'aurais été bien là-dedans? Mais à cause du péché, la relation que je pouvais avoir à Dieu à ce moment-là a été détruite. Et finalement, quand on pense à l'offense, on peut penser aussi à une rupture. Hein. Quelqu'un écrivait, le péché est une volonté de rupture, illusoire mais bien réelle, du lien qui unit obligatoirement le Créateur et la créature. Le pécheur s'écrie à la manière de Sartre, hein, il prend un exemple, j'ai choisi d'exister et décide de nier celui à qui il doit la vie. Quand je pêche, je dis à Dieu, moi, je me débrouille tout seul, j'ai pas besoin de toi. Quand j'offense, c'est exactement la même chose. Quelque part, je dis à Dieu, bon, hein, pas besoin de toi. Ça, c'est entre l'homme et Dieu. Mais la relation peut être détruite aussi entre hommes. Homme, femme, 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 homme. Hein, on est bien d'accord. Depuis l'Éden, ben, vous regardez un peu dans la Bible, mais vous regardez aussi l'histoire. Ça a commencé avec Caïn et Abel, et après, il y a eu Jacob et Ésaü, et puis, bon, depuis, il y a nous, hein. Chaque fois qu'on a offensé quelqu'un, la relation a été brisée. Non seulement la relation est brisée, mais il y a toujours cette dette qui est contractée derrière. Et quand on réfléchit à l'offense, elle vise toujours quelqu'un. On n'offense pas comme ça. On vise quelqu'un quand on offense quelqu'un. Hein. On touche quelqu'un. Une personne est visée. Et donc forcément, la relation est brisée. Et quand la relation est brisée, finalement, ce n'est pas de l'amour non plus. Là aussi, l'amour est quelque part un peu rompu. Quand on réfléchit toujours à cette atteinte à la relation, on voit qu'il y a des responsabilités qui éclosent dans l'offense. Hein. L'offense brise la relation entre les deux personnes. Maintenant, il y a un offensé et non, il y a un offenseur et puis il y a un offensé. À partir du moment où j'ai offensé quelqu'un, la relation se brise. Moi, je suis l'offenseur et j'ai en face de moi celui qui a été offensé. Et souvent, quand j'étais offensé, je me dis, c'est l'autre le coupable. Souvent, c'est ça. C'est lui, là. Il doit me demander pardon. On est comme ça, non? Je suis humain, je suis comme vous. Mais devant Dieu, en fait, il y a deux responsables. C'est ça qu'on oublie. Évidemment, il y a cet offenseur qui doit s'excuser, dans la mesure où il peut le faire, hein, s'il est encore vivant. Mais il y a aussi celui qui est offensé qui doit demander pardon ou accepter de pardonner celui qui vient nous offenser. On se focalise souvent sur celui qui a fait la bêtise, en oubliant que nous-mêmes, nous avons quelque chose à faire. Il y a une dette. L'offenseur a contracté une dette vis-à-vis de l'offensé, mais l'offensé aussi a une dette vis-à-vis de l'offenseur. Alors, l'offenseur doit s'excuser de ce qu'il a fait, et le faire sincèrement, évidemment. Mais s'il vient s'excuser devant moi, il faut aussi que je lui pardonne. Il ne faut pas oublier ça. Donc, quand il se passe quelque chose entre deux personnes, et que ça part en live, hein, comme dit, les deux ont une responsabilité, en fait, devant Dieu. Alors, si l'offenseur, par exemple, mourrait et qu'on ne peut pas régler la situation, ben, il faut quand même que dans mon cœur, j'accepte de lui pardonner. Même s'il ne pourra jamais me demander pardon, on avait vu ça la dernière fois, mais il faut que j'accepte aussi de pardonner. Donc, ce n'est pas conditionné sur le fait que la personne vienne me demander pardon, c'est conditionné par le fait que j'ai une responsabilité devant Dieu. Je dois pardonner quoi qu'il m'arrive. Pas toujours simple. Donc, offenser une personne, on l'a vu, c'est un péché. Et si je blesse quelqu'un, il ne faut pas que je me dise, oh, bon, pff, trop faible, ou, oh, il se laisse toujours en rien. Il faut que je comprenne que j'ai fait un péché, que j'ai une dette vis-à-vis de lui, et que je dois justement régler ce problème, réparer la dette. Quand on est offensé, il se passe des choses. On pourra en parler longtemps, mais je n'ai pas le temps ce matin, mais l'offense produit obligatoirement une blessure. La blessure varie selon l'offense qui a été contracté, mais c'est une source de tristesse, une source de mal-être, hein, une source de blessure. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Jésus regardait Jérusalem et qui voit qu'il le rejetait, il était blessé dans son cœur et il pleurait un peu sur cette ville. On connaît aussi l'histoire de Pierre qui a trahi Jésus, hein, alors que juste quelques temps avant, il disait « J'irai mourir avec toi !» Et hop, au moment où il fallait mourir, il a préféré taillou, taillou. Hein. Il a fui, quelque part, il a blessé aussi Jésus. Et là-dedans, Dieu lui-même était offensé. Et donc, même Jésus, lui, était blessé dans certains cas. Et Dieu est blessé vis-à-vis du péché de l'homme aujourd'hui. Hein. Bon, il est Dieu. Mais ça provoque une tristesse. Ça provoque une blessure. Et en fait, c'est un signe de bonne santé. Hein. Si quelqu'un vous blesse ou vous offense et ça ne vous fait rien, posez-vous une question. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Soit vous êtes devenu de métal, vous n'avez plus de cœur peut-être, mais quand on vous blesse réellement, ça fait mal et ça démontre que vous êtes en bonne santé en fait. Alors, la blessure, on ne l'aime pas, mais elle est réelle, elle est là dans mon cœur. Il va falloir la traiter. Alors, il y a diverses manières de réagir à l'offense, hein, puisqu'on est tous différents. Hein, et, alors, des fois, l'offense peut être corporelle même, hein, mais elle atteint toujours le cœur. Quoi qu'on vous fasse, que ce soit avec les mots, avec la main, avec je ne sais pas quoi, au fond, celui qui est blessé, c'est toujours le cœur. C'est lui qui souffre à cause de cette offense. Et chacun réagit différemment à l'offense. Hein. Quelques réactions, alors bon, il y aura beaucoup de choses à dire, mais... Par exemple, le névrotique va demander pardon, même s'il était offensé, hein, même s'il n'est pas responsable. Il cherche simplement à essayer de garder la relation avec l'autre. Hein. Tant pis, bon, frappe-moi, continue, mais voilà, je veux garder la relation. Ça, c'est pas ce que Dieu nous demande de faire. D'autres ne semblent jamais atteints par l'offense, comme je disais, ou alors d'autres succombent immédiatement. Offense, dépression, et c'est fini. D'autres ne se sentent jamais coupables, puis ils vont accuser les autres, plutôt. Moi, je suis offensé ? Non. Et puis on réagit tous, comme dit l'auteur, hein, à l'offense en fonction de ce que la vie a fait de nous et de notre passé. Le passé est important dans la manière de réagir aussi vis-à-vis de l'offense. Si on a vraiment souffert peut-être dans notre jeunesse, c'est vrai que l'offense est des fois plus délicate. Ça réveille des souvenirs peut-être, ça réveille un tas de choses en nous. Et c'est pas toujours évident de pardonner. Ce que inspire l'offense, une fois qu'on a été blessé, même si on est chrétien, on voudrait dire « Allez, je te pardonne tout de suite ». C'est comme ça qu'on fait généralement. Je viens vous offenser, tout de suite vous me pardonnez. C'est encore plus dur entre frères et sœurs, j'avais dit la dernière fois, en Christ. Non, ça produit quelque chose. On réceptionne, on va dire, l'offense, et puis là, il y a notre nature pécheresse qui est là, toujours, hein, faut pas l'oublier, elle est là. Hein. Et puis il y a le monde autour de moi, il y a le péché dans ce monde. Hein. Et puis le monde a tellement banalisé l'offense aujourd'hui, et même dans certains cas, hein, dans certaines professions, c'est un atout pour vous. Il y en a qui poussent les gens à offenser pour gagner justement en stature dans leur travail. Hein. C'est terrible à quel point on peut en arriver. Et c'est banalisé aujourd'hui. Mais celui qui est offensé sans Dieu, soit il est vraiment insensible, mais là je crois qu'il mentirait, et bien souvent, comme on l'a dit, ça termine dépressif, ça termine par des suicides ou alors des gens qui deviennent fous. Quand on est vraiment blessé, je pense peut-être à ceux qui ont dû subir Nice il y a quelques semaines, la réaction des parents, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais sans Dieu, ça doit être terrible, hein, d'accepter ce genre d'événement. Il va y avoir un grand combat dans leur vie et je pense que beaucoup vont mal finir à cause de cela. Incompréhensible pour eux. Et le pardon, si on y réfléchit, hein, ce n'est pas une notion du monde. Allez dans le monde, faites un sondage et demandez aux gens si vous êtes prêts à pardonner comme ça, à vos collègues de travail. C'est... Ça ne va pas, non ? J'ai mon orgueil, j'ai ma réputation, j'ai ma personne. Pourquoi j'irais pardonner ? Ce n'est pas une notion du monde. Hein. Et même si vous êtes en train de pardonner quelqu'un, il va vous regarder, mais qu'est-ce qu'il est faible, celui-là ? C'est une notion de faiblesse, en fait, pour le monde que de demander pardon. C'est triste d'en arriver là. Ça ne m'étonne pas qu'on s'entretue. Puisque chacun est blessé, la blessure grandit, et à la fin, ça explose. Si tout le monde se pardonnait aujourd'hui, d'un seul coup, là, dans le monde entier, il n'y aura plus d'attentats, hein. Ça c'est sûr, à mon avis. Mais ce n'est pas ce que le monde fait. Il n'y a que la nouvelle vie, hein, celle en Christ, qui va mettre en lumière justement que l'offense est un péché, et qu'à partir du moment que j'offense, j'ai besoin de demander pardon, ou j'ai besoin de pardonner mon prochain. Et donc, cette blessure est là dans le cœur et parfois, ben, ça va grandir et ça va devenir de la haine. Une profonde haine. Quand je n'étais pas converti, j'avais une profonde haine contre le monde entier, contre mes parents, contre moi-même. Et c'est allé très loin puisque j'étais dépressif et allé jusqu'au suicide. Donc, je sais de quoi on parle ce matin. Mais la douleur est là et attention de ne pas la laisser parce que sinon, elle va conduire beaucoup plus loin. Et plus le temps passe, plus ça devient, hein, dans le subconscient, on ne s'en rend même plus compte. Mais elle est là, elle est bien là. Les exemples bibliques, par exemple, hein, ben, Ésaü et Jacob, hein, on sait que Jacob a trompé plus d'une fois Ésaü, et il y a de la haine qui a grandi en Ésaü. Absalom, par exemple, hein, aura de la haine pour Amnon, son frère, un des fils de David, qui était tourmenté par sa demi-sœur Tamar, hein, il la désirait, et qui lui fera violence, il va essayer de la violer, mais 2 ans après, son frère va le tuer. Mais entre-temps, il avait de la colère contre son frère, et il n'a jamais tenté la réconciliation, s'est monté, et à un moment, il l'a tué. On rigole pas, hein. Les frères de Joseph, vous les connaissez, hein, qui vont avoir de la jalousie vis-à-vis de Joseph, de la colère, et à la fin, finalement, ils voulaient le tuer, mais bon, Dieu a des plans différents. Il a permis qu'il soit vendu à des marchands, et bon, après, le plan de Dieu s'est mis en place, mais ils ont gardé ça dans leur cœur, ça grandit, et à un moment, il y a un passage à l'acte. Et les terroristes, excusez-moi, c'est exactement la même chose. Hein. Il y a de la haine, ça y est, et à un moment, on passe à l'acte, tout simplement parce qu'on ne veut pas se soigner. Alors, la douleur ne conduit pas forcément toujours au crime, hein, mais 1 Jean 3,15 dit « Quiconque hait son frère est un meurtrier. » Si je hais mon frère, quelque part, j'ai une attitude de meurtrier. Hein, on se dit « La haine, c'est pas trop grave des fois. » Mais non, j'ai une attitude de meurtrier. Alors, je passe pas à l'acte, mais Dieu nous voit de cette manière-là. C'est important. La haine est une réaction aussi naturelle pour l'homme. J'ai déjà eu de la haine, hein, j'ai pas honte de le dire. J'ai eu de la haine, et j'en aurai encore certainement, parce que c'est naturel dans notre cœur. Quand on vous blesse, on veut bien faire l'effort à un moment de « ok, mais à un moment, ça pousse, hein, ça monte, et puis la moutarde nous monte au nez, comme on dit. Hein. » Et surtout quand on est extrêmement blessé dans notre cœur. Mais on essaie de la cacher, cette haine, bien souvent, d'abord à soi-même, mais aussi au monde. On la cache, on l'enfouit de plus en plus dans notre cœur, et dans le subconscient, à un point qu'à un moment, on ne se souvient même plus qu'on a de la haine. Par contre, on va avoir des réactions curieuses, qui sont en relation avec ça, justement. Des fois, on ne se souvient pas de certaines choses, mais je peux avoir des réactions violentes. Et quand on prend le temps, je ne veux pas jouer le psy ce matin, mais quand on prend le temps de réfléchir à ces choses, en discutant, d'un coup, on voit qu'il y a là des choses enfouies profondément, parce qu'on n'arrive pas à les assumer, parce qu'on a honte d'avoir de la haine, hein, parce qu'on culpabilise. Ou alors, il y en a d'autres qui vont se punir eux-mêmes, hein, autopunition. Il y en a qui ont la honte d'avoir de la haine dans leur cœur. En fait, honte d'être blessé. Quelqu'un écrivait par rapport à la honte de la haine face à l'offense. Il disait « Les chrétiens souvent cachent cette haine, car reconnaître sa présence souillerait leur image de spirituel. » Même si la haine est mauvaise, évidemment, il faut d'abord la reconnaître pour pouvoir demander pardon. La haine de l'offensé a ceci de particulier. Contrairement à toutes les formes de haine, elle est une réaction brutale au péché qui l'atteint. C'est peut-être ainsi que nous découvrons l'horreur du péché. Quand on est blessé, on découvre aussi l'horreur du péché. Donc si cette haine grandit en nous, il ne faut pas la laisser aller de plus en plus grandir, il faut réagir. Et il faut déjà l'identifier dans notre vie, l'accepter, et après peut-être en parler ou en parlant en tout cas à Dieu pour que cette haine disparaisse tout simplement de nous-mêmes. Autrement, il y a beaucoup de risques. Après, il y a des extrêmes face à l'offense. Hein. Beaucoup de textes de Jésus parlent de scandale, ou dans Romains par exemple, on voit « Il est bien de ne pas manger de la viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale et de faiblesse. » J'ai des frères et des sœurs qui ne sont pas pareils que moi, qui viennent peut-être d'autres pays, etc. Et on n'a pas les mêmes habitudes, les mêmes coutumes. Et le Seigneur nous demande de ne pas être un objet de scandale pour l'autre. Si je sais que ça blesse quelqu'un en buvant du vin, ça existe, hein, mais je ne vais pas boire du vin devant lui, exprès. Sinon, je le scandalise. Dans 1 Corinthiens 10, 32, il dit « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » En 2 Corinthiens 6, 3, il dit « Ne nous donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. » Je peux offenser par ma manière de vivre, par ma liberté en Christ, et ça peut devenir un scandale pour quelqu'un, et évidemment, quelque part, je l'atteins, je l'offense, tout simplement. Et je deviens là, moi, une occasion de chute pour mon prochain. Alors, on ne le fait pas forcément exprès, hein. Souvent, on ne le fait pas exprès de devenir une occasion, mais si je m'en rends compte, il faut que je découvre que j'ai offensé cette personne-là. Et chacun est complètement sensible différemment. Moi, j'ai ma sensibilité, vous avez la vôtre. Et il faut qu'on respecte cette sensibilité les uns des autres. Alors, il ne faut pas non plus exagérer, hein, en profiter, on est bien d'accord. Et la Bible nous dit aussi que le chrétien ne doit pas devenir une pierre d'achoppement pour son frère. Hein. Il ne faut pas que mon comportement, ma façon d'être, permette que l'autre chute, tout simplement, parce que soit c'est un jeune chrétien, soit il ne comprend pas encore quelque chose. Mais il faut prendre le temps et être capable d'accepter des fois, je ne vais pas faire certaines choses parce que je veux préserver mon frère ou ma soeur dans l'Église, le temps qu'elle comprenne ces choses-là, et ensuite on le fera peut-être ensemble. Hein. Mais il faut aussi comprendre que tout n'est pas une offense. Je parle des extrêmes, là. Tout n'est pas une offense et beaucoup de gens ont tendance à dramatiser tout. Dans Colossiens, il est écrit que nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres. C'est bizarre qu'il a mis ça dans la Bible, nous supporter les uns les autres. Pourquoi vous êtes insupportable? Je suis insupportable. Oui, hein, je suis insupportable. Ouais. On est tous insupportables vis-à-vis de l'autre, hein. Il ne faut pas l'oublier. Mais il nous demande d'apprendre à nous supporter. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses dans la vie quotidienne qui peuvent arriver qu'on ne va pas forcément nommer offense. On peut demander pardon, éventuellement, mais on apprend à vivre les uns avec les autres. Et il y en a, suffit qu'on ne leur dise pas bonjour un dimanche, hein, ça arrive à beaucoup de pasteurs, ils sont offensés à vie. Mais bon, il est en train de discuter avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une offense. Hein. Mais bon, si on peut revoir la personne et en parler, ce serait bien. Ne pas tout dramatiser non plus. Puis la susceptibilité, hein, voit une offense dans toutes les paroles. Les gens qui sont susceptibles, et dès qu'on leur dit quelque chose, vous, tu m'as offensé. Je t'ai demandé le repas, je t'ai rien demandé. On croit qu'on... voilà. Mais attention, ça c'est l'orgueil. Quand on est susceptible, c'est parce qu'on est orgueilleux. On a tendance à oublier ça. Tout n'est pas une offense non plus. Donc avant de dire je suis blessé, avant de dire c'est grave, etc., il faut quand même que je prenne le temps de réfléchir. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce qu'il y a vraiment une dette qui a été contractée à ce moment-là? Des fois, il n'y a pas de dette, hein, mais c'est nous qui nous les inventons aussi. Donc, vous voyez, il y a des extrêmes. Donc l'offense produit une réaction qu'il faut traiter. Si je suis blessé, il faut que je réagisse, obligatoirement. Il ne faut pas me dire, oh, le temps va passer, les choses vont se faire. C'est faux, complètement faux. Il y a un danger, là. Et quand le diable voit un chrétien qui ne veut pas régler ce problème, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous enfoncer d'une manière ou d'une autre. Il faut réagir quand on est blessé, et le faire le plus vite possible, ça serait bien. Des fois, ça peut demander du temps. Hein, selon l'offense. Mais il faut réagir et ne pas dire « c'est pas grave, c'est faux ». Alors comment réagir à l'offense? Alors là, je pourrais parler pendant 6 heures si vous voulez. On ne peut pas tout dire ce matin. Mais en résumé, hein, d'abord comprendre que l'offense est une réalité complexe et qui va nécessiter plusieurs démarches. Hein. D'abord, comme on l'a dit, quand je suis offensé, la relation est brisée entre deux personnes. Justement, comment réagir? C'est d'essayer de nouveau rétablir cette relation avec l'autre personne. Et comme on l'a dit la semaine dernière, il n'y a que le pardon qui permet de réconcilier deux personnes, qui permet de réparer la blessure. Donc il faut agir. Je suis blessé, j'ai mal, je ne veux pas que ça me blesse plus profondément, je veux réagir. Et bien, il faut que je rentre dans cette démarche de pardon avec l'autre. Alors, on avait vu ça la semaine dernière, je ne vais pas rentrer dans le détail de nouveau ce matin. Comprendre qu'une blessure qui peut conduire à la haine et à la colère, si elle conduit à la haine et à la colère, il n'y a que l'amour qui peut apaiser cette blessure. Et c'est vrai que quand je suis dans la situation, j'ai plus de haine, de colère que d'amour pour l'autre. Il faut réagir aussi. Et là, il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Hein, j'ai dit au début, je ne peux pas réagir à l'offense sans Dieu. C'est impossible quelque part. Et si j'ai cette haine, cette colère, il faut que je me dise qu'il n'y a que l'amour qui pourra réparer cela dans ma vie et réparer la relation avec l'autre. Mais là, il y a un grand travail à faire sur moi. Mais Dieu peut le faire. Des gens ont pardonné des choses terrifiantes dans leur vie. Mais parce que Dieu a remplacé la haine par l'amour pour le prochain. Mais c'est un combat. Ce n'est pas évident. Il faut aussi comprendre la gravité de l'offense. On a vu, Jésus parle de l'offense aussi comme un scandale. Souvent, on est plus marqué par l'offense que quand nous offensons quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. « Oh, tu m'as blessé, c'est la fin !» Mais quand j'ai blessé l'autre, c'est pas trop grave. Hein. C'est comme ça, hein. On défend toujours sa propre personne. C'est normal, quelque part. Hein. C'est notre ego qui est là. Mais on est souvent plus marqué par quelqu'un qui m'offense que quand moi, j'offense mon prochain. Il faut réfléchir à ça. Hein. Mais quand j'offense quelqu'un, il faut que je réalise la gravité de mon acte, l'impact que ça a sur la personne, la blessure que j'ai infligée à une personne. Il faut prendre le temps d'y réfléchir. Ça me motivera peut-être à aller vers la personne et avoir de l'amour justement pour elle et demander pardon parce que ce n'était pas l'objectif, forcément. Des fois, c'est l'objectif. Hein. On blesse exprès. C'est pas la même démarche à faire d'ailleurs. Puis il y a la repentance de l'offenseur vers l'offensé. Il faut comprendre l'urgence de la repentance dans les deux cas. D'abord, l'offensé va voir, et c'est la Bible qui le dit, il va voir l'offenseur, mais surtout quand il ne se repent pas. Il m'a blessé, ça fait 3 semaines que ça dure, il n'est pas venu me demander pardon, ça me ronge. Eh bien, à un moment, il faut que j'aille voir la personne, nous dit la Bible, pour qu'on en parle. Et on espère évidemment que l'offenseur va s'excuser. Alors, il ne va pas forcément le faire. Mais la deuxième démarche, c'est que l'offenseur va réaliser son offense, et ça, on l'espère, et va voir l'offensé. C'est l'autre démarche, c'est que j'ai blessé quelqu'un, je l'ai réalisé, je ne vais pas attendre que l'autre vienne. Celui que j'ai blessé, je ne vais pas attendre qu'il vienne. C'est moi qui dois aller le voir pour lui demander pardon. Et l'offensé, ensuite, doit demander pardon. Si quelqu'un s'excuse de ce qu'il a fait, la moindre des choses, c'est de lui pardonner. Quand on va voir le Seigneur à cause de notre péché et qu'on lui demande pardon, on s'attend à quoi ? À qu'il nous pardonne ? Ah oui, sinon ça ne sert à rien d'y aller quelque part. Ben c'est la même chose quand l'offenseur et l'offensé ont un problème entre eux. Si l'offenseur vient demander pardon à l'offensé, l'offensé est censé pardonner. À qui confesser ses péchés ? Question qu'on peut se poser. Dans les deux cas, c'est devant Dieu. L'offenseur parce qu'il a blessé quelqu'un, et peut-être l'offensé parce que la haine a grandi pour cette personne. Mais dans les deux cas, la première démarche, je crois, c'est se tourner vers Dieu et demander pardon. Dans les deux situations. Parce que, autant quand on est offensé, on a de la haine, et la haine, le Seigneur ne l'aime pas. Alors, elle est légitime peut-être des fois, la blessure est légitime, c'est clair, mais notre réaction n'est pas forcément légitime. Quand Jésus était sur la croix, je pense qu'avec deux clous, quelques clous dans les mains, avec toute la douleur qu'il a souffert, la honte qu'il était là, il a dit « pardonne-leur ». Il n'a pas dit « vas-y, envoie les anges et on tue tout le monde ». Et puis, à qui confesser ensuite ses péchés ? Ben, une fois que c'est fait avec Dieu, je crois que, par exemple, à l'offensé, l'offenseur doit reconnaître, en offensant quelqu'un, qu'il a aussi péché contre son prochain. Et l'inverse, l'offenseur, l'offensé pardonnera et remettra la dette de l'offenseur. On croit souvent qu'il n'y a qu'un aller-venu, mais en fait, il y en a deux. L'offenseur voit l'offensé, l'offenseur demande pardon parce qu'il l'a blessé, mais l'offensé doit aussi accepter le pardon et pardonner à celui qui a fait du mal. Pas évident, hein ? Si ça se faisait vraiment tout le temps, l'Église irait bien, hein ? Mais ce n'est pas toujours le cas. Quel péché confesser ? Alors bon, alors je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a tellement de cas, mais ce n'est pas des sentiments passagers, hein ? On l'a dit tout à l'heure, on doit apprendre à supporter les uns les autres. Il ne m'a pas fait la bise dimanche, ce n'est pas une offense, hein, ce n'est pas une dette. Donc voilà, bon, je te pardonne, on fera mieux la prochaine fois. Mais on l'a vu que quand c'est un péché, c'est une dette. Et ce qu'il faut confesser, pardonner, c'est quand il y a une dette, quand la relation a été brisée entre deux personnes. C'est ça qu'il faut confesser, pardonner. Il faut en parler une fois sérieusement. Prendre le temps entre les deux parties d'en parler sérieusement pour ne plus avoir en parler dans l'avenir. Bien souvent, au bout de 20 ans, on va reparler toujours de l'offense qu'on m'a fait, c'est parce que je n'ai pas pardonné la personne en fait. Et ça va nous bouffer durant tout le reste de notre vie. Mais quand le Seigneur a pardonné mes péchés, je l'ai dit la dernière fois, est-ce qu'il est revenu une seule fois me dire, mais tu te souviens Emmanuel, en l'an machin, là, tu avais fait ça ? C'est ce qu'il vous fait des fois, Dieu, il vient en vous disant, vous vous souvenez, il y a 10 ans, vous aviez péché, hein ? Je vous le rappelle, c'est ce qu'il fait le Seigneur avec nos péchés ? Quand on demande pardon, ben non, il ne s'en souvient plus. Regardez, on dirait que il ne se souvient plus de rien. Quand on lui a demandé pardon le jour de notre repentance, tous les péchés avant ont été effacés, il n'y a plus rien. Je veux dire, c'est fou, mais c'est ce que dit la Bible. Et si aujourd'hui je lui demande pardon, le lendemain, le Seigneur ne se souvient plus de rien. Moi, je m'en souviens bien souvent, ou peut-être mon prochain, il garde un petit souvenir là au cas où, mais Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Est-ce que dans notre façon de demander pardon, si je suis l'offenseur, est-ce que quand je demande vraiment pardon, c'est sincère dans mon cœur ? Et quand l'offensé dit « je te pardonne », est-ce qu'il pardonne réellement ? Pas toujours évident. On parlait de la mémoire, c'est une chose la mémoire. La mémoire va se souvenir de beaucoup de choses, mais elle peut être en paix. Il y a des mémoires qui ne sont pas en paix parce que justement, elles ne sont pas réellement pardonnées. On se souviendra de toutes les choses mal qu'on nous a faites, mais on peut s'en souvenir en étant calme paisible parce qu'on a pardonné réellement au prochain. Peut-être quelques remarques par rapport à la réaction qu'on peut avoir. La confession qu'on doit faire doit être intime hein, entre l'offenseur et l'offensé. Si on peut, dans la possibilité, hein, on va voir l'autre. Et quand je vais voir l'autre, quel que soit si je suis offenseur ou offensé, mon objectif c'est positif. Hein. Mon but c'est la réconciliation. C'est pas d'aller taper sur l'autre pour lui rappeler combien il m'a blessé. Hein. Le but c'est de me réconcilier avec l'autre. Et peut-être tant que je suis pas prêt dans mon cœur à aller vers là, autant ne pas le faire. Hein, souvent, quand on est en colère, on vient de se disputer, on voudrait réparer les choses tout de suite, mais on est tellement énervé que ça repart encore pire. Il faut attendre qu'on soit un peu calme, hein, apaisé. Et c'est là où on peut peut-être faire une démarche de réconciliation. On ne doit pas aussi étaler le péché. Hein. Quelqu'un m'a blessé, je vais aller téléphoner à tout le monde, et dire, ah, il m'a fait du mal, ah, regarde comme il est mauvais. Et puis il y a les potins dans l'église après, t'as vu celui-là, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Ça, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est d'aller voir la personne seule. Après, il y a une démarche, hein, si elle ne veut pas écouter. Il y a deux, trois frères, puis après, il y a l'église, et puis, évidemment, ça va plus loin. Puis, il y a des fois, dans certains cas, là, c'est uniquement dans la Bible, dans le cas d'un ancien, d'un pasteur, hein, il peut y avoir une confession publique, si un pasteur a chuté, etc. Mais s'il se confesse, je pense que l'église va aussi pardonner. Bien souvent, ils ne le font pas. C'est bien triste. Mais on n'est pas appelé parce que beaucoup des fois, enfin j'ai déjà entendu dire qu'il faut toujours déballer ses péchés devant les gens, demander pardon, non, pas du tout. Mais il peut arriver que dans certains cas, et là c'est le seul cas, c'est l'ancien que je vois dans la Bible, où il peut y avoir une espèce de confession publique, c'est tout à fait normal, c'est le berger qui demande pardon au troupeau. Donc l'offenseur et l'offensé doivent réagir. Sinon, comme j'ai déjà dit, ils deviennent tous les deux proies du diable, et quand le diable s'en mêle, ça devient très, très compliqué. Pour terminer, nous avons ou nous allons être offensés un jour. Et vous allez souffrir, comme j'ai souffert, et comme d'autres ont souffert. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, j'ai remarqué que oui, on va être blessé. Avec le temps, Dieu devient l'issue. C'est ça qui est beau avec le Seigneur. Quoi qu'on peut vous faire, Dieu est l'issue de la blessure qui m'a été infligée. Alors ça va vite, ça va moins vite, mais si je compte sur le Seigneur, si vraiment je lui demande de l'aide, si j'avoue vraiment ce qu'il y a dans mon cœur devant lui, eh bien il va m'aider. Et il a aidé un tas de gens à sortir de situations extrêmement difficiles. C'est pas impossible, c'est ça qui est formidable avec le Seigneur. Rien lui est impossible. Hein. Je parlais de Corrie ten Boom la dernière fois, qui sa sœur a été massacrée devant elle par des nazis. Elle a retrouvé ce nazi dans une église qui s'était convertie. Imaginez la rencontre, bonjour monsieur. Je ne pense pas qu'elle ait eu cette réaction au départ, hein, et ça a duré très longtemps, mais elle a trouvé une issue en Jésus-Christ qui l'a aidé à lui pardonner, à avoir cet homme-là comme quelqu'un de né de nouveau et comme un frère en Christ. C'est beau quand on y réfléchit. Hein. Mais quel parcours, quelle difficulté hein, elle a écrit un livre là-dessus, c'est vraiment intéressant. Dieu a souffert pour nos offenses aussi, et ça on ne se souvient pas trop. Hein. Quand je suis blessé, je pense à moi, mon ego, et je suis blessé, moi. Mais Jésus-Christ a été blessé d'abord pour mes offenses. Hein. Et il s'est plu, lui, à nous pardonner avant même qu'on lui demande pardon. Quand on y réfléchit, est-ce qu'on est capable de faire ça? Dieu a souffert pour nos offenses. Et si je pense qu'il y a quelque chose qui est tellement difficile à pardonner dans ma vie, peut-être regarder à la croix et se dire, tiens, quelqu'un a souffert pour mes offenses, et mes offenses sont bien plus grandes, à mon avis, que ce que je dois pardonner à ce moment-là à quelqu'un. Lui, il ne sait plus à nous pardonner. Et pour moi, c'est un modèle. Ce n'est pas toujours simple, on est d'accord. Mais si je le garde comme modèle, ça va m'aider dans la démarche du pardon. Et si la douleur, par contre, s'enracine, si elle s'enfonce dans notre vie, comme j'avais dit la dernière fois, il faut réagir. Et tout seul, je ne peux pas forcément m'en sortir. Et j'ai besoin de m'entourer. J'ai besoin des fois de frères, de sœurs ou d'une personne avec qui je vais entrer dans une démarche pour aller vers le pardon. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire toute seule. Et le Seigneur a permis que dans l'Église, il y ait des uns et des autres, des frères et des sœurs, pour justement nous épauler dans toutes les situations. Et ça, c'est génial, je trouve, non? Vous n'êtes pas content d'avoir des frères et sœurs? Juste pour manger avec eux le dimanche, c'est ça? Faire un agape, deux, trois poulets, et puis c'est réglé. Mais quand ça ne va pas, vous savez que vous pouvez... Alors, si vous avez confiance évidemment dans cette personne, allez la voir, parlez, discutez si ça ne va pas. Dieu les a mis là aussi pour nous aider. Il n'y a pas que le pasteur. Hein. Je suis là pour écouter, mais je ne suis pas le seul. Hein. Je crois qu'il y a des gens, des fois, qui préfèrent discuter avec quelqu'un d'autre. Ça ne me gêne pas, moi. Au contraire. Mais prenez le temps de réagir si ça ne va pas dans votre vie un jour, hein, si il y a des difficultés. Il y a Dieu, c'est une chose, mais des fois Dieu nous pousse aussi vers des conseillers, vers l'autre. C'est une démarche d'humilité, hein, quelque part. Mais beaucoup de gens s'en sortent grâce à ça. Finalement, pour moi, en tout cas, l'idéal, ça serait qu'on ne se blesse plus les uns les autres. C'est un idéal, hein, je rêve. Si on ne se blessait plus les uns les autres, il n'y aurait plus d'offense, il n'y aurait plus besoin de demander pardon. C'est pour ça que j'évite de blesser, parce que j'aime pas demander pardon. Un peu tordu des fois, mais c'est vrai, quelque part. Si on arrive à ne plus blesser, ça n'arrive pas, hein, je blesse encore, évidemment, mais si j'arrive à aimer mon prochain vraiment de plus en plus, je vais de moins en moins le blesser, et il y aura de moins en moins de blessures, de démarches de pardon à faire. Mais bon, on reste des pécheurs, mais il y a une solution, heureusement. Et puis, sinon, ben, y a cette réconciliation qu'il faut mettre en place le plus vite possible. Hein, et elle est toujours possible aussi. Hein. Dans les situations les plus difficiles, il est possible de se réconcilier avec son prochain. Christ l'a fait avec nous et nous prouve que c'est réel aussi pour les hommes, les êtres humains. Et on verra ça la semaine prochaine. Le Seigneur nous aide, si on est blessé dans l'avenir, à réagir de façon biblique, on pourrait dire, avec son aide, ou avec l'aide de quelqu'un, mais à réagir face à cette difficulté, évidemment, au bout, à apprendre à se pardonner les uns les autres. Nous voulons prier. Oui, Seigneur, chaque fois que nous sommes blessés, nous pouvons nous souvenir que toi-même, tu as été blessé, et bien plus terriblement et de façon bien plus effrayante que ce que nous pouvons vivre sur la terre. Mais toi-même, tu sais que cela nous fait du mal. Cela nous conduit dans des sentiments curieux parfois et peut même nous tétaniser, nous paralyser. Le Seigneur, ta parole nous rappelle que nous devons pardonner à celui qui nous a offensés comme toi-même tu nous as pardonné. Seigneur, tu sais que la démarche n'est pas toujours simple, mais avec toi, avec ton amour, avec ton appui, ton soutien, Seigneur, et pourquoi pas avec l'appui d'autres, ben, tu permets à toute offense d'être réparée, d'être pardonnée, Seigneur. Apprends-nous à te prendre comme modèle, apprends-nous à t'imiter dans ces cas-là et à arrêter à regarder à notre ego bien souvent ou à simplement à la douleur, mais à regarder à ton amour aussi, à l'amour que tu avais pour chacun d'entre nous qui t'avons offensé le premier, qui étions ennemis de toi, Seigneur. Apprends-nous à pardonner comme tu te plais à me pardonner chaque jour, Seigneur. Tu sais que c'est un vrai défi pour chacun d'entre nous, mais Seigneur, que nous puissions témoigner de cet amour, témoigner de ce pardon autour de nous et qui sait, Seigneur, si ce monde se pardonnait, combien les choses iraient mieux. En tout cas, fais de nous cette lumière et cette lumière de l'Évangile autour de nous et un bon témoignage pour ta gloire. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.